Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Roxane Nonc, fondatrice de Dear Lobbies, le média qui souhaite nous faire prendre conscience du monde qui nous entoure. Roxane, je l'ai connue d'abord grâce au groupe Facebook d'entraide sur l'arrêt de la pilule qu'elle a créé, car si vous me suivez aussi sur Instagram et sur YouTube, vous savez que c'est ce que je suis en train de traverser en ce moment, et Roxane est une des premières personnes qui m'a vraiment sensibilisée aux effets et aux dangers de la pilule. Du coup, à la base, on était parti pour parler de ça, et en fait, on est parti vraiment loin. Dans cet épisode, on aborde le sujet de l'enfance et des blessures que l'on peut connaître à un jeune âge, mais qu'on n'oublie jamais vraiment, du parcours chaotique de Roxane avant de trouver sa voie, et, tenez-vous bien, de collapsologie. Roxane est en effet très éduquée sur la problématique environnementale à laquelle notre société fait face, et pense que celle-ci risque de s'effondrer dans un proche futur. Ce n'est donc pas forcément un épisode facile à entendre, mais parfois, c'est ce qui fait réfléchir et ce qui nous pousse à agir pour le mieux. Si vous appréciez écouter In Power, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes sur Apple Podcasts que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Maxime G, qui a laissé le commentaire suivant. Merci beaucoup à toi Louise de prendre le temps de rencontrer des personnes aussi inspirantes. Chacune de ces discussions m'aide un peu plus à trouver ma voie et à apprendre tellement de choses pendant mes transports quotidiens. J'attends chaque nouvel épisode avec impatience. Merci beaucoup à toi Maxime et à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire. C'est vraiment la plus belle des récompenses de lire ces mots. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Roxane. Bon bah salut Roxane.
Salut Louise.
Bienvenue sur In Power. Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast. Ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir cette conversation. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ?
Alors, je m'appelle Roxane, j'ai 33 ans, je suis militante écolo de base, mais je suis en train d'opérer une convergence avec le féminisme, l'antiracisme, etc. Et le social, mais ça va avec tout le reste. Et j'ai créé, il y a un an et demi, un média qui s'appelle Dear Lobbies. Et Dear Lobbies, je l'appelle Média Libre, et pour moi c'est un média en fait qui cultive la vigilance. Donc c'est-à-dire que c'est un média qui est pas facile à suivre, parce qu'il y a des choses pas drôles dessus, il y a beaucoup de sources brutes, mais en fait je suis pour que les gens aient des opinions propres. Je suis contre les opinions d'affiliation, et si les gens savent pas ce que c'est, les opinions d'affiliation, c'est quand tu t'as pas réfléchi à un sujet, mais tu aimes telle personne ou tu aimes tel parti politique, et donc du coup tu vas te rallier à cette opinion alors même que tu n'y as pas réfléchi. Moi je déteste ça et je veux pas que les gens me suivent et pensent comme moi. C'est pour ça que sur mon média il y a beaucoup de questions, plus que de réponses, et il y a beaucoup de nudge. Le nudge, c'est un procédé marketing qui consiste à manipuler les gens. Donc la manipulation c'est mal, on est d'accord, mais quand c'est utilisé de cette manière, je vais l'expliquer, c'est intéressant. En fait le nudge c'est influencer les gens pour qu'ils aillent d'un point A à un point B. Un exemple tout bête, je sais pas si t'as déjà entendu parler de la mouche dessinée dans les urinoirs des hommes.
Ah non, pas du tout.
Alors ça c'est un truc qui s'est passé à Amsterdam la première fois je crois. Et en fait le simple fait de dessiner une mouche sur l'urinoir, les hommes s'amusent à la viser en faisant pipi. Et du coup, ça réduit les frais de nettoyage. Et donc ça, c'est un nudge. Un nudge, c'est faire en sorte que quelqu'un fasse quelque chose sans qu'il s'en rende compte. Il n'a pas décidé, la personne n'a pas décidé, mais on sait que c'est ce qu'on attend d'elle, et donc elle le fait. Donc ça, c'est l'exemple du nudge. Après, évidemment, ça peut être utilisé de manière très négative, c'est-à-dire bah, dans la publicité ou dans la propagande. Les gouvernements utilisent le nudge. Et moi, en fait, j'utilise comment ? Je l'utilise en écrivant des fictions. Qui sont très faciles à lire et qui sont courtes, c'est des fictions dans le futur. Et en fait, quand tu lis ma fiction, tu te dis, ok, ce monde il est assez horrible, c'est pas possible. Je ne veux pas y croire. Et moi, je te dis pas si c'est vrai ou pas, je te dis simplement, voilà, j'ai une source là, donc ça peut être un podcast, ça peut être un article presse ou internet, ça peut être un paragraphe de texte de loi, et je vais te dire, si tu veux la réponse, tu lis ça. Et mon nudge, en fait, c'est d'inciter les gens à aller à cette source, qui habituellement n'aurait pas été leur tasse de thé, parce que de toute façon, c'est assez indigeste. Hein. Même pour moi, lire un rapport scientifique, c'est indigeste. Mais vu que t'as eu une préparation et que t'as envie de savoir, tu as la motivation pour le lire. Donc ça, c'est mon nudge. Et ensuite, tout mon compte Instagram est basé sur cette technique de manipulation. Et en fait, la façon de savoir si un nudge est positif, entre guillemets, ou pas, c'est de te demander si quand tu révèles ton nudge aux personnes, est-ce que les personnes sont fâchées contre toi ou pas. Je pense que personne ne sera fâché si je leur ai dit « je t'ai manipulé pour que tu ailles lire une source ». Donc moi je suis pas du tout dans la vulgarisation, c'est pas mon truc, c'est important, en fait tous les comptes qui existent, qui sont militants, sont complémentaires. Moi c'est pas mon truc, moi je sais pas vulgariser, donc moi ce que je fais c'est que j'amène à des sources, je pose beaucoup de questions et en fait voilà, c'est ça que j'appelle cultiver la vigilance, parce que je te donne des infos que t'aurais pas trouvées ailleurs. Par exemple, tu vois, les déclarations des Nations Unies de 1972, à part si tu connais le truc et tu vas fouiller, tu vas jamais tomber dessus. Mmh. Et il se trouve qu'en 72, on prévoyait déjà tout ce qui est en train de se passer, mais je te parle du changement climatique, mais personne n'a rien fait. Mais en fait, on le sait depuis tout ce temps, tu vois, ça fait presque 50 ans qu'on sait tout ça. Et je veux juste faire comprendre aux gens qu'on se fout de nous, qu'on nous ment. Là, il y a des preuves hein, concrètes et qu'il faut faire attention, en fait. Il faut faire attention à ce qu'on nous dit et il faut se renseigner. Enfin, quand tu as été nudgée par mon histoire et que tu as lu une partie du rapport scientifique, quand tu vas aller voir tes potes ou ta famille et que tu vas devoir parler de ce sujet, mais t'auras vraiment des outils, en fait. Et plus je crée du contenu comme ça et plus les gens le lisent, plus ça se répand, en fait. Donc voilà, dire le bise, c'est ça. Mais à la base, dire le bise, c'était mon laboratoire de recherche lorsque j'écrivais mon mémoire. J'ai fait un mémoire lors d'un master développement durable. Et plutôt que de faire un stage, en fait, je me suis dit, tu vas pas faire un stage qui va servir à rien, tu vas pas faire un mémoire qui va servir à rien dans une armoire. Tu vas monter ton projet et tu écriras ton mémoire plus tard. Donc j'ai toujours pas rendu mon mémoire. Mais parce qu'en fait, je veux pas faire un truc qui serve à rien, tu vois. Je veux pas écrire un truc qui va être dans une armoire. Donc j'ai mon laboratoire de recherche qui est Dirlobiz, là, mon petit compte Instagram. Et mon mémoire, je l'écrirai un petit peu plus tard, quand j'aurai suffisamment de recul, tu vas voir ouais. Si ça fonctionne et tout, quoi.
Ok. Voilà. Trop cool. Là, t'es rentrée en plein dedans, dans le vif du sujet. Non, mais j'adore. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir... d'en savoir un peu plus sur l'enfance des personnes que je reçois. Ouais. J'imagine que t'es pas née militante, tu vois. Comment t'étais quand t'avais 8 ans?
Bah écoute, moi j'ai une enfance heureuse et très malheureuse en même temps. C'est-à-dire que toute petite, mes parents m'ont expliqué qu'il fallait que je fasse très attention quand j'allais chez mes grands-parents, à ne pas boire dans les verres derrière les autres et tout. Parce que mon oncle était malade en fait, mon oncle avait le sida. Et quand t'avais le sida à l'époque, t'avais toutes les hépatites, enfin t'avais plein de maladies. Donc du coup, très jeune, j'ai perdu un peu de naïveté par rapport à tout ça, parce que il fallait bien que je fasse attention, donc il fallait bien que mes parents m'expliquent. Et dès que j'étais en âge de comprendre, donc je sais pas, 4, 5, 6 ans, je savais que mon oncle était malade, qu'il allait mourir, parce qu'il était condamné. Et j'ai grandi avec ça, tu vois. Mmh. Donc déjà, j'étais un peu militante par rapport à tout ça. Et aussi parce qu'il était homosexuel, et que dans la cour, quand j'étais petite, les enfants se traitaient de pédés, j'avais envie de les tuer, en fait. Mmh. J'ai envie de les frapper jusqu'à ce qu'ils se taisent, tu vois. Enfin, j'avais des phobies d'impulsion, déjà, à l'époque. Je le faisais pas par respect pour lui, parce que je me disais, je pense qu'il aimerait pas que les gens sachent, en fait, ce qu'il a, etc. Donc, tu vois, mon enfance, ça a été ça. Et il y a eu autre chose, c'est que je connais pas la famille de mon père, en fait. La famille de mon père a rejeté mon père quand il s'est marié avec ma mère, qui est d'origine espagnole. Donc est-ce que c'est parce qu'elle était d'origine espagnole, il y a un peu de ça. Enfin bref, il y a eu des histoires, je connais toujours pas la famille de mon père. J'aime beaucoup mon père, je suis en très très bon, ils sont toujours ensemble d'ailleurs. J'aime beaucoup mon père, mais ouais, j'ai eu des petits trucs dans mon enfance qui m'ont amené à me poser des questions parce que il y avait ça, il y avait aussi le fait que tu vois, j'étais en banlieue et moi j'étais dans la partie cool de la banlieue, c'est-à-dire j'étais dans les zones pavillonnaires et je voyais mes potes qui parfois avaient pas eu le temps de faire leurs devoirs parce qu'ils avaient un bureau pour trois ou qui avaient pas mangé parce qu'ils avaient pas d'argent. Enfin, tu sais, les banlieues, c'est vachement mélangé. Et, du coup, à l'école et au lycée, t'es avec plein de gens. Toi, t'es dans la partie assez privilégiée, mais tu vois quand même tout. Tu vois le racisme, tu vois les problèmes sociaux, tu vois tout. Donc, j'ai vu tout ça en grandissant, en fait. Il y a un jour, je suis allée au lycée, il y avait un des copains de mes potes qui avait été tué parce qu'il y avait des guerres de gang, enfin de gang entre guillemets à l'époque à Cergy, entre les quartiers. Donc oui, j'ai grandi avec tout un tas de trucs. D'un côté, en fait, j'ai pu me construire correctement parce que j'avais une base familiale solide, tu vois, genre mes parents, mes frères, c'était parfait. Mais il y avait des petits trucs en fait qui m'ont fait grandir. Mmh. Mais si j'ai réussi à transformer tout ça en force entre guillemets, c'est parce que j'avais une base solide. Donc voilà, mon enfance a été
je me posais déjà beaucoup de questions. Ouais. Faut savoir aussi que quand j'étais toute petite, ma prof a voulu me faire sauter deux classes.
Ok.
Parce que j'étais hyper concentrée, attentive, que je faisais tout très vite. Et je me rappelle encore de cette période, tu vois, où les exercices, pour moi, ça m'amusait, en fait, tu vois, j'aimais bien. Mais j'ai sauté qu'une classe, finalement, parce que c'était pas possible d'en faire sauter deux, j'aurais été trop jeune, dans tous les cas. Donc, voilà mon enfance. Donc, quand même un petit peu torturée. Mm. Je me posais beaucoup de questions. Je comprenais pas. Ouais, il y a plein de trucs que je comprenais pas.
Et quand est-ce que t'as commencé à trouver des réponses ?
Moi, je les ai pas toutes trouvées. qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ben non, j'ai pas trouvé de réponse. Je comprends toujours pas pourquoi la famille de mon père a rejeté mon père comme ça. Je le saurai jamais parce que j'ai pas envie d'être en contact avec eux, tu vois. Mm. Les problèmes sociaux, bah j'ai... Ils sont toujours pas résolus, hein. Mais maintenant, plus ça va, plus je comprends un petit peu le fonctionnement de la société. Bah maintenant que j'ai découvert tous les lobbies, etc., tu vois, je me rends compte qu'il y a quand même une volonté de laisser les gens dans la misère. Il y a une volonté de faire perdurer le racisme. C'est un truc qu'on voit beaucoup en ce moment. Je pense qu'il y a une volonté de faire en sorte que les gens... Je pense qu'il y a la haute société, et les gens. Que ce soit les classes moyennes ou les... Enfin, il y a les gens très riches et puis il y a les gens. Et je pense qu'il y a une volonté de faire en sorte que les gens se tapent un peu les uns sur les autres pour qu'ils se détournent des problèmes qui sont créés par la source, c'est-à-dire la haute. Et quand je dis la haute, c'est les gouvernements, c'est les patrons de multinationales et patronnes, mais c'est beaucoup des hommes. Voilà, c'est, je pense que j'ai pas les réponses. Mais en tout cas, j'essaie de combattre, en fait, tous ces fléaux, ouais, à ma petite mesure. Mmh. Voilà.
Et du coup, quand t'arrives au lycée, que tu passes le bac, tout ça, mmh, quand on arrive à la période où on nous dit un peu, tu dois choisir ce que tu dois faire de ta vie. Toi, tu te dis quoi ?
Ah. Alors moi, il y a un truc qui est flagrant chez moi, c'est que j'ai mon intuition qui est ultra présente depuis que je suis petite.
Ah, c'est cool, ça.
Mais genre, mais c'est flagrant, tu vois.
Moi, et dans l'eau, elle est genre. Ah ouais. Ah, mais moi, c'est
mais pourtant, tu t'en sors super bien, tu fais plein de trucs géniaux, donc
mais,
peut-être que...
Mais c'est vachement rationnel et pas du tout instinctif. Enfin, c'est instinctif, si, parfois j'ai des envies, je les suis. Mm. Mais typique, je suis la personne la plus indécise de la Terre.
Ah ouais.
Tu vois, moi, listen to your guts, je sais pas ce que ça veut dire. C'est je demande à ma sœur jumelle de choisir, tu vois.
C'est vrai ?
Ouais. Et ça m'intéresse vachement ce sujet, parce que j'y crois, l'intuition. Mm. Mais je pense que je l'ai oublié ou que j'ai jamais laissé la chance de se développer, tu vois.
Ah, c'est possible, hein. Peut-être que ouais, tu l'as mise sous un tapis, et... mais ça reviendra peut-être, hein.
Ouais, bah de toute façon, je pense que c'est très lié au fait... je sais pas si je suis obligée d'en parler, parce que moi, je le lis en ce moment, le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui t'empêchent d'être soi-même. Tu vois un peu...
Ouais, je vois.
Bon, bref, je trouve ce livre hyper intéressant. Je vous conseille à tous de le lire. Moi, ça m'a ouvert les yeux. J'avais déjà conscience de... Enfin, j'appelle pas ça des défauts, mais de... Bon, voilà, de caractère... Enfin, de mon caractère qui est particulier. Et en fait, elle explique nos comportements comme des masques qui sont dus à des blessures qu'on a vécues durant la petite enfance. Mm. Et qui font, bah, alors, notamment dans mon cas, que j'ai vachement coupé mes émotions. Et donc, en fait, je pense que c'est hyper lié à l'intuition, à tout ça. Enfin, au fait de ressentir son corps. Et c'est pour ça que aussi, tu vois, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on a fait une vidéo avec Roxane, donc je mettrai aussi le lien de notre vidéo dans la barre de description si jamais vous voulez la voir sur YouTube. Mais on va être amené à some point à parler de la pilule. et donc voilà, moi, dans cette démarche d'arrêt de la pilule et d'essayer de rééquilibrer mes hormones, je m'intéresse vachement, tu vois, à la médecine holistique et au fait que le corps et l'esprit sont très liés, alors que dans l'absolu, moi, pour l'instant, ils sont pas liés du tout, toi, tu vois. Et c'est un peu paniquant.
Bah, je pense pas. Tu sais, moi, j'ai un problème avec le développement durable... le développement personnel. Ah, le lapsus ! Non, j'ai un problème avec le développement durable parce que je trouve que le mot développement ne va pas du tout.
C'est vrai.
C'est pour ça que je le mets toujours entre guillemets, d'ailleurs. Non, j'ai un problème avec le développement personnel. Je trouve ça bien à petite dose. Ouais. Mais parfois, j'ai l'impression que ça t'amène à chercher des problèmes que t'as pas, en fait. Tu vois ? Et là, je suis... ouais. Autant, j'ai adoré... Enfin, moi, il y a un livre. Le livre au-dessus de tous les autres, pour moi, c'est Les Accords Toltec.
Putain, tu sais que je n'ai pas réussi à le lire.
Ouais, mais c'est dur à lire.
Ah ouais, j'ai envie de le relire. Hein, c'est parce dur. Parce qu'on me l'a offert, j'ai commencé et je la mets...
What ?
Mais je pense que j'étais trop jeune. Enfin,
bah, c'est possible.
Là, j'étais un peu éveillée, tu vois. Donc,
il est pas très bien écrit.
On va dire.
Il est pas facile à lire.
Ouais.
Mais c'est la base. Donc pour moi, ce livre, c'est la base, vraiment. Dès que ça va pas, je le relis. J'ai dû le lire 4 fois. Ça a changé ma vie, ce livre. Mais bon, on y reviendra. C'était parce qu'on parlait de livres.
Ouais, on parlait d'intuition.
L'intuition.
Ouais.
L'intuition, mon intuition, elle est hyper présente depuis que je suis petite. Et parfois, je comprends pas. Hein. Mm. Je me dis, mais pourquoi ce choix? Mais c'est incontrôlable, je suis mon intuition. Elle me dit, va là, je vais là. Et franchement, j'ai eu une vie mais de merde jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai eu des gros soucis dans ma vie. Et maintenant, là, tout de suite, aujourd'hui, je me dis, je suis tellement bien, en fait. Je me dis, autant j'aimerais pas repasser par tout ce par quoi je suis passée, mais autant je changerais rien, parce que je pense que toutes les périodes qu'il y a eu dans ma vie qui ont été dures m'ont fait me connaître et m'ont amenée à une personne que j'aime. Enfin, je m'aime pour la première fois de ma vie, je m'aime inconditionnellement, tu vois.
Trop beau.
Ouais, mais c'est dingue, hein, tu vois. Et c'est même plus physique, tu vois. Après, je pense que le fait de ne plus avoir de boutons, tout ça, bah évidemment, ça aide. Mais je m'aide et je m'aime. Sans aucun doute, tu vois. Mais donc, du coup, je vais reprendre ma vie.
J'adore.
J'aime bien, tu vois, faire des allers-retours.
Gros digression, puis après, bon, ma vie. Alors, j'en ai
ma
fait.
Ma vie, parce que les gens ne vont pas comprendre, là. Donc du coup, mon intuition. Donc le lycée, tout ça, le moment où je suis censée savoir ce que je vais faire de ma vie, bah en fait, je sais pas trop. Donc j'ai mon bac à 17 ans. Je pars aux États-Unis un an pour apprendre l'anglais. Et en fait, là-bas, je suis quelques mois à Miami. Mais moi, je déteste ça parce que bah, j'ai 17 ans et qu'il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de matu-vu. C'est tout ce que je déteste, en fait. Trop superficielle. Et donc, je déménage dans une université américaine, mais la bonne université, l'une des moins chères d'ailleurs, qui du coup est tout ce que j'aime. Donc, le football américain, le soccer, enfin, t'as été aux États-Unis. Non, t'as été aux États-Unis.
Ouais, j'ai été aux États-Unis.
Tu vois ce que c'est. Et du coup, là-bas, je découvre en fait la vie des Américains, et notamment la vie de mes potes, qui en fait galèrent à payer leurs études. Tu vois, je conscientise des trucs concernant mes privilèges que je conscientisais pas. Donc, ils galèrent tous à payer leurs études, ils ont dû avoir des bourses sportives. Il y en a qui travaillent, enfin, ils travaillent tous à côté, mais c'est pas juste un travail, ils ont deux, trois boulots en plus de la fac. Enfin, moi, je les vois, je les trouve super courageux. Et puis en plus, j'ai des potes qui ont des impacts de balles dans le corps. Enfin, tu vois, c'est une époque, c'était 2004-2005 à Los Angeles, il y avait la guerre entre les Noirs et les Mexicains. Et parfois, je marchais dans la rue et on devait courir parce qu'il y avait un autre gang en face. Enfin, moi, j'étais dans une matrice. Et là, je me suis dit, waouh, en France, j'ai la chance. Et je me rappelle d'une phrase, d'une discussion que j'ai eue avec eux. Je leur ai dit une fois que qu'en France, pour se la raconter, on séchait les cours. Et ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils me disaient, mais pourquoi? Et moi, j'arrivais pas à leur expliquer. Et là, en fait, dans ma tête, il y a un truc qui s'est passé. Et j'ai totalement changé. J'ai évolué, tu vois. J'avais eu tout ce que j'avais appris de mon enfance, en banlieue, tout ça. Et là, j'ai vu un autre côté de la vie. Et je me suis dit, OK, quand je vais rentrer, je vais être courageuse. Et quand je suis rentrée, j'ai été courageuse. J'ai trouvé deux boulots, plus la fac, plus un autre boulot en événementiel. Je faisais la fac par correspondance, parce que sinon, ça aurait pas été gérable. Mais du coup, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je m'étais inscrite dans LEA, parce que LEA, c'était le truc que tu faisais quand tu savais pas quoi faire. Sauf qu'il m'est arrivé un truc, j'ai eu un accident de parcours, c'est-à-dire que le mec avec qui j'étais est parti en prison. Il a pris 3 ans de prison, et je l'ai attendu pendant tout ce temps. Ça a fait 22 mois avec les remises de peine, mais c'est 22 mois pendant lesquels j'ai arrêté les études, j'ai arrêté mon boulot, et je faisais de l'événementiel entre les parloirs. Tu vois, je faisais des missions ponctuelles entre les parloirs parce que mon intuition me disait de pas l'abandonner, en fait.
Ce mec ?
Ouais.
Ok.
Alors que j'étais ultra amoureuse de lui, mais alors que plus les parloirs passaient, plus ils changeaient. Mais c'était inconcevable pour moi de pas l'attendre, en fait, tu vois.
Putain, c'est beau, hein, mais... Pourtant, c'est ça, typique, nos regrets, parce que...
Non.
Parce que t'as mis ta vie en parenthèse, quoi.
Non, mais parce que j'ai vécu... Alors moi, je me suis dit, vas-y, Roxane, t'es là, absorbe tout. Donc, j'ai passé plus... Je sais pas, j'ai dû passer 300 heures en prison.
Putain.
Bah, parce que pour chaque parloir, t'as 3-4 heures, en fait.
Ouais.
Tu vois, t'as l'appel, t'as machin, t'attends dans des couloirs, tout ça. J'ai passé des centaines d'heures en prison. Et moi, j'observais tout. Tu vois, j'observais tout ce qui était social, les interactions entre les gardiens, les détenus, les machins. J'observais tout. Et j'avais des copines de parloir. Enfin, c'est une partie de ma vie que je regrette pas.
Mmh.
Parce que ça m'a... Tu vois, moi, j'aime ouvrir ma grille de lecture. Ça m'a élargi ma grille de lecture puissance 1000. Bon, après, il est sorti, il m'a trompé direct. Moi, je me suis barrée. Je me suis barrée. Ouais, mais de toute façon, ça allait plus. Il était violent. C'était plus tout le même mec. Et le fait qu'il me trompe, c'était une porte de sortie pour m'enfuir, en fait.
Ouais.
Et donc, du coup, je savais toujours pas quoi faire de ma vie. J'avais, du coup, 21 ans. Et je me suis dit, écoute, fais un petit point. T'aimes bien voyager. T'aimes bien parler des langues étrangères. T'adores les avions, parce que les avions, c'était ma passion. Tu vas être hôtesse de l'air. Donc, j'ai fait ça 4 ans. J'ai fait ça 4 ans, et au bout de la quatrième année, je me suis dit, Roxane, c'est pas ce que tu voulais faire à la base. À la base, tu voulais quand même faire des études. Et puis je commençais à me renseigner sur la communication, j'aimais bien. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je laisse tout tomber. je laisse mon CDI, je reprends les études. Donc 25 ans, j'ai repris des études à zéro, j'ai fait une licence, tout en travaillant. Et 28 ans, j'ai eu un autre bug, parce que là, c'était concernant l'écologie. Je me suis dit, vas-y, tu reprends encore tes études, et j'ai fait un master, là. Donc, en gros, j'ai arrêté mes études à 17 ans, je les ai reprises à 25 ans, et je les ai reprises une dernière fois à 28-29 ans, pour finir à 31 ans, quoi.
Donc. C'est cool. Tu sais, t'es la première que je reçois qui a fait autant d'études différentes, au final, et à des âges différents, et je trouve ça cool, parce que on entend, tu vois, de plus en plus, de toute façon, on peut apprendre toute la vie, etc. Mais dans les faits, personne ne le fait vraiment. C'est quand même une espèce de conformisme social de, non, mais en même temps, tu vas pas apprendre tes études à 30 ans.
Pourquoi, si
jamais il y a un sujet qui te passionne, go for it, quoi. Donc c'est trop cool, quoi, que tu sois écouté.
Moi, il y a un de mes trucs que j'ai dans ma tête, c'est il est jamais trop tard, en fait. Il est trop tard quand t'es mort. Enfin, il est jamais trop tard. Tu vois, par exemple, ma mère, elle me dit, j'aimerais bien prendre des cours de danse. J'aurais aimé. Mais maman, fais. Prends des cours de danse, on s'en fout. Quoi, t'as peur de quoi? Enfin, puis même, je parle à tous les gens qui écoutent là. Vous voulez faire quelque chose, mais faites-le. Vous avez peur du regard des autres, mais on s'en fout du regard des autres. Enfin, laissez tomber les barrières mentales, laissez tomber les barrières sociales. Enfin, laissez tomber toutes ces choses et faites ce que vous voulez, quoi. Vivez.
Enfin, l'important, c'est de faire ce qu'on aime au final. Donc.
C'est de vivre. Franchement, pour être dans des rapports scientifiques toute la journée, je vous dis, ce monde actuel calme tel qu'on le connaît, ça va pas durer. Et ça durera pas, même si du jour au lendemain on se dit ok, on fait tout bien au niveau écologie, tout ça. Non, on est dans un emballement climatique. La température va monter, les sociétés vont se déstabiliser. Le calme qu'on connaît maintenant ne durera pas. Donc, vivez intensément. Vivez intensément chaque moment de votre vie et profitez du confort qu'on a et de vos privilèges, parce qu'il faut vraiment se rendre compte qu'on a énormément de privilèges en étant ici. Pour vivre. Et quand je dis privilège, tu vois, c'est des trucs qu'on conscientise même pas. Tu vois, il y a des gens, ils y pensent pas. La dernière fois, j'étais en train de parler avec un pote, je disais, fais-moi la liste de tes privilèges. Ils savaient pas.
Ah ouais.
Mais gars, juste, t'as un toit. T'as de l'eau courante. T'es pas obligé d'aller au puits. T'as de l'eau qui sort de ton robinet. Cette eau, elle est chauffée. Tu peux prendre des douches chaudes. Si t'as faim, tu vas dans un magasin, t'as les rayons qui sont pleins. Bon, le confinement, c'était la première fois où on connaissait un peu de rupture de stock. Mais. Tu manges, t'as un toit, t'as de l'eau, t'as de la nourriture, t'es dans un pays relativement en paix, t'es en tout cas dans une zone en paix. C'est la base, en fait. Et après, t'as plein d'autres privilèges. Le fait d'être blanc, le fait d'être un homme, donc pour mon pote en l'occurrence, le fait d'avoir une famille aimante, le fait d'avoir pas de problèmes financiers, tu vois. Moi, je sais que si j'ai pu faire tout ça, c'est aussi parce que je savais que si je me cassais la figure, je pouvais retourner vivre chez mes parents. Il y a des gens qui n'ont pas cette solution-là. Donc il faut qu'on conscientise bien nos privilèges et il faut vivre intensément. Donc, cette histoire d'études, tu vois, moi déjà, c'était plus fort que moi, c'était mon intuition, je l'aurais fait, je me serais toujours débrouillée pour le faire. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir.
C'est pas grave, parce que moi, ça m'a fait penser au fait qu'on avait discuté du livre que t'avais lu sur la collapsologie.
Ouais.
Qui est donc, en fait, en gros, la théorie de la fin du monde, du fait...
C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde.
La fin d'un monde, du fait du changement climatique. Et alors, je sais plus, entre toi et ma Joline, qui était présente à l'événement qu'on avait fait ensemble, il y en a une de vous deux que ça avait déprimé, cette lecture, il y en a une de vous deux que ça avait, au contraire... revigoré entre guillemets, mais je crois que c'était Majoline.
Ouais, plutôt. Non, moi ça m'a déprimé.
Ouais. Et parce que en fait, d'après le discours que tu tiens, j'ai l'impression que, enfin, elle, en tout cas, c'est ce qu'elle disait, ça l'avait fait réaliser de la chance qu'on avait de vivre dans ce monde actuel, et donc au fond que ça l'avait pas déprimé, tu vois. Bon, moi au final, lâche comme je suis, je n'ai pas encore lu le livre.
Faut faire attention à ce livre.
Ouais, mais bon, j'aimerais bien qu'on en parle quand même un peu, parce que j'ai pas reçu de collapsologiste, du coup.
Collapsologue.
Collapsologue, Ok, ça c'est les spécialistes de la collapsologie, ouais. Non ouais. Mais genre ceux qui y croient, c'est pas les collapsologistes?
Oh, peut-être.
Bon, en peut-être. Tout cas, toi étant informée et étant croyante dans ce... cette théorie, est-ce que tu peux nous en parler un peu, quoi, pour les personnes qui se disent, mais qu'est-ce que
c'est quoi la collapsologie? En fait, la collapsologie, c'est la science de l'effondrement. Et l'effondrement, c'est l'effondrement de la société et toute autre sorte d'effondrement. En fait, ça part du principe que il y a plusieurs pôles. Donc, il va y avoir l'écologie, il va y avoir la société, il va y avoir le social, d'autres choses. Tout est lié, en fait. Tout est lié, et si l'un s'effondre, tout le reste s'effondre. Après, on est axé sur l'écologie. En fait, un rapport a été publié dans les années 60, ça s'appelle le rapport Meadows. Et en fait, quand tu regardes ce rapport, avec les ordinateurs de l'époque, ils avaient pris plein de données, ils les avaient rentrées dans l'ordi, et ils avaient fait des simulations. Donc si, en fait, on continue à exploiter les ressources de la Terre de telle manière, si on continue à vendre, etc. Enfin bref, il y a plein d'indicateurs. Si on continue comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et en gros, le modèle 3 explique que si on continue comme ça, à partir de 2020, tu vois la courbe, il y a un effondrement. Il y a un effondrement au niveau des ressources, donc ça c'est un truc qui est en train d'arriver. Il y a un effondrement au niveau de la population, donc là tu sais pas trop si c'est parce qu'il y a une baisse de la natalité ou il y a une pandémie ou whatever. Et tout se pète la gueule, en fait, en 2020. C'est ça, l'effondrement. Le rapport Meadows, il date des années 60. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a une mise à jour qui a été faite il y a une dizaine d'années, ou peut-être 20 ans, je sais pas. Ils ont essayé de voir si les chiffres qui étaient exposés par ce modèle en 1960, avaient été suivis des faits. Et le fait est que... toutes les courbes, tu vois, qui ont été imaginées et les courbes réelles se suivent. Donc, on part là-dedans. Et là, le point de rupture, c'est 2020-2025. La collapsologie, c'est la science de cet effondrement-là. Je te parle de Meadows parce que c'est les premiers qui ont mis ça en avant. Et la collapsologie, donc, c'est le courant français de... comment on appelle ça ? Je ne saurais plus le dire en anglais. Bon, bref. Ce courant étudie, en fait, ce qui pourrait se passer... dans le cas d'un effondrement dans les années qui viennent. Donc, si vous voulez vous intéresser à ça, il y a une série qui s'appelle Next sur YouTube, qui a été réalisée par Clément Montfort. Et là, vous avez des épisodes, notamment avec Pablo Servigne, qui est l'auteur du livre dont tu parlais, « Comment tout peut s'effondrer », qui vous explique en détail ce qui va arriver. Et là, je parle au futur. Je parle pas au conditionnel parce que ça va arriver, en fait. Pourquoi ? Parce que on est sur une planète avec des ressources finies qu'on exploite comme si elles étaient infinies. Donc à un moment, déjà au niveau des ressources, il va y avoir un souci. Les ressources, ça peut être les ressources en hydrocarbures, ça peut être les ressources en nourriture, ça peut être les ressources en eau. On arrive à un point de rupture là, bientôt. Donc bientôt, moi je suis pas devin, donc je sais pas quand, mais c'est pas en 2100. C'est bientôt, dans 5, 10, 15 ans. Voilà. Donc il y a cette problématique des ressources, il y a la problématique du changement climatique. On est dans un changement climatique qui ne pourra pas être stoppé. Parce que là, même si on arrêtait de produire du CO2 tout de suite, le climat, enfin la température monterait parce que c'est un espèce d'emballement. Ça continuera à monter pendant des centaines d'années. Donc dans tous les cas, le monde qu'on connaît là va changer. Et on le voit. Tu vois, ça fait 5 ans, je crois, qu'on le voit bien avec les canicules. Mmh. On s'est quand même tapé une canicule en septembre. Mmh. De 6 jours de suite. Fin. Et nous, on le sent bien parce qu'on est à Paris. Il y en a peut-être qui le sentent moins. Mais ça, c'est des choses qu'on prévoyait pour 2050, tu vois. Mmh. Donc moi comme je disais, mon truc préféré, c'est de faire des fictions dans le futur. Mais je me suis sentie super mal à plusieurs reprises cette année. Parce que j'avais l'impression d'être dans mes fictions, tu vois. Que j'imaginais pas pour maintenant. Alors que moi-même, tu vois, on me dit que je suis dans la dystopie tout le temps, que je suis pas optimiste. Je me dis, wow, si moi-même, ça me choque, on est dans la merde. Donc, voilà, la collapsologie, c'est tout ça. Est-ce que je crois à cette science, entre guillemets, science, ou pas ? C'est même pas question que j'y crois ou pas, en fait. C'est que... c'est que ça, enfin, ça rentre dans ma grille de lecture. Moi, je me dis pas que tout va s'effondrer d'un coup, tu vois, j'en sais rien. Mais je dis juste que tout ce que je lis dans ces livres qui traitent de collapsologie sont des choses qui sont crédibles et qui vont arriver à un moment ou à un autre, tu vois.
Et comment ils imaginent le monde d'après ces collapsologues et enfin, parce que voilà, ils parlent du coup d'un monde qui change, et en effet, je pense qu'on peut pas le nier. Mais c'est quoi, du coup
Le monde d'après.
Ouais, ou la porte de sortie, enfin...
Bah en fait, il y en a pas, c'est ça le problème.
Mais donc c'est l'effondrement, alors
Bah, est-ce qu'il y aura un effondrement ou pas, j'en sais rien. Peut-être qu'on va d'un coup prendre conscience de tout ce qui se passe, et du coup... mettre en place des mesures qui auront une efficacité. Tu vois, dans mes fictions, moi, je parle de limiter les naissances, par exemple. Tu vois, ça va être plein de, peut-être, de mesures liberticides, mais qui feront qu'on arrivera à contenir le problème. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est trop nombreux sur Terre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de régions sur la planète qui vont être désertiques et qui vont devenir inhabitables. Donc il va y avoir des mouvements de population monumentaux, mais c'est des millions, voire des milliards de personnes qui vont devoir bouger, parce qu'il y a les eaux qui montent, parce qu'ils ne pourront plus cultiver de nourriture, parce que ce sera juste invivable. Tu vois, moi, Paris, tu me dis Paris dans 30 ans, pour moi, ça n'existe même plus. Hein.
Ah ouais?
Ah ouais, pour moi, ça n'existe plus.
De quoi?
Bah parce que ça sera invivable, en fait.
Il fera trop chaud.
Il fera trop chaud. Déjà, il fera trop chaud. T'imagines si les étés sont... Parce que là, l'été qu'on a eu, il était quand même assez coriace au niveau température. Si chaque année, c'est pire, mais imagine juste dans 10 ans, en fait. Ouais. Imagine dans 10 ans. Je pense que ça va être graduel, et qu'au début, les gens vont commencer à partir des villes pendant l'été. Et petit à petit, bah, les apparts se vendront plus parce que bah, c'est inhabitable pendant plusieurs mois dans l'année. Et les gens vont petit à petit s'en aller. Il va y avoir un exode urbain, c'est sûr. Et pour moi, c'est dans 10 ans, tu vois. Et les gens qui tu vois, investissent dans des apparts, mais j'ai envie de leur dire, mais attention, quoi. Enfin, vous vous rendez pas compte, en fait.
Tu me disais alors que je signe pour mon appart jeudi.
Et bon, écoute, tu le revends dans 5 ans avant que ça parte en vrille. Non, mais enfin, tu vois... À Paris ?
Ouais, à Paris, ouais.
tu prends un crédit sur longtemps ?
Ouais, mais, ouais. Mais après, en effet, si je le revends, bah, ça rembourse.
Bah, il faut le tester en tête, quoi.
Ouais, ouais, en tête. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Bah, en fait, c'est horrible parce que. Ouais, en fait, d'un côté, j'ai pas envie d'une vie où chaque jour je pense à la fin. Mm. Et d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de faire l'autruche. Donc, c'est vachement compliqué à gérer.
Et
bah,
en fait,
quoi.
Non. Je vais te dire, alors, t'as les phases du déni.
Ouais.
Donc là, ça, c'est un peu turbulent. Ensuite, tu prends conscience des choses et c'est un peu turbulent aussi. Mais je vais te dire, moi, j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Mmh. Jamais dans ma vie, j'ai été aussi heureuse parce que j'ai les yeux grands ouverts, tu vois. Ils sont ouverts, mes yeux. Je sais exactement ce qui se passe. Et je savoure tout. Tu vois, le moindre petit truc, je suis là avec toi, je suis contente, tu vois. Je savoure. Je vais prendre le métro, je vais écouter une musique, je vais kiffer écouter ma musique dans le métro. Tu vois, je vais ressentir la brise du vent sur moi, je vais kiffer. Je kiffe tout parce que j'ai conscience, en fait, de la fragilité de notre situation actuelle. Et du coup, je vis pas trop dans le futur, dans le sens où j'ai pas trop de projets à long terme pour ces raisons-là. Mais je surkiffe ma vie, mais comme jamais. Moi, j'explique. Pour moi, mon truc actuel, c'est que je vis la... En fait, je conjugue la nostalgie au présent. Je suis nostalgique de tout ce que je vis constamment, parce que je sais que c'est hyper fragile, en fait. Et là où, tu vois, des fois, tu vis des moments, et c'est... Sur le moment, tu n'es pas dedans, tu vois. Et c'est après, quand tu y repenses, tu dis « Ah, c'était bien, quand même », tu vois. Moi, je vis tout intensément. Je suis nostalgique de ce que je vis là, tout de suite. Mmh. Tu vois, parce que... J'ai conscience de la fragilité, tu vois. Donc, tu peux être au courant de tout ça et vivre ultra bien, parce qu'en fait, c'est l'équivalent de vivre comme si tu mourrais demain, tu vois. Mmh. Tu sais pas de quoi demain est fait. Et ben là, non seulement ça marche physiquement, tu sais pas, tu peux avoir un accident demain, machin, mais aussi globalement, à l'échelle du monde, tu sais pas ce qui peut se passer. Ça peut partir en vrille en 3 secondes.
On l'a un peu vu d'ailleurs cette année. Hein.
On l'a vu cette année, mais tu vois... Dans tout ce qu'il y a dans la collapsologie, il y a aussi les effondrements des sociétés et les possibles guerres civiles, tu vois. Aux États-Unis, c'est en train de partir en vrille, total.
Bah, en même temps, tu vois, moi, c'est un truc dont j'ai toujours eu conscience, étant toujours assez féru d'histoire et tout, je me suis toujours dit, c'est assez dingue, on vit dans une période où notre monde, notre société occidentale ne connaît pas la guerre. Alors que mon grand-père... Non, il n'a pas connu la Première Guerre mondiale, je suis en train de faire le calcul. Mais en tout cas, il y a une génération qui a connu deux guerres mondiales.
Ouais.
Donc moi, en fait, je pense qu'on connaîtra forcément une guerre, quoi. Et c'est un peu horrible, mais d'un côté, c'est enfin, le cours de l'histoire, quoi.
Bah ça, j'en sais rien. Tu vois, la guerre, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si à un moment, on manque d'eau, on manque de nourriture, il va commencer à y avoir des pillages, enfin, les gens vont péter les plombs, quoi.
Ouais.
Et... ouais, enfin, c'est des possibilités. Enfin, tu l'as vu, là, juste avec le confinement, les gens, ils se sont rués sur le papier toilette. Enfin, les gens créent des pénuries pour rien. Imagine s'il n'y a plus de pétrole. Juste, à ton avis, ta vie, elle ressemble à quoi sans pétrole?
Ben, en fait, ça dépend, hein, si ta maison et ton appart est autosuffisant ou
pas.
Ah,
c'est ça.
Mais ce qui... Voilà pourquoi moi, j'ai changé de fournisseur d'énergie pour un fournisseur d'énergie renouvelable. Mais en effet, sinon, si ton eau, elle est chauffée avec le pétrole et que ton chauffage est chauffé grâce au pétrole, tu fais plus grand-chose, quoi.
Ben, en fait, s'il n'y a plus de pétrole, tu meurs. Mais que t'aies une maison autosuffisante ou pas. Après, ça dépend si t'as à manger.
Ouais.
Si t'as à manger, ça va. Mais c'est ce que dit Pablo Servigne, justement, dans le premier épisode de Next. Il explique qu'en fait... Tout est lié au pétrole. Si t'as plus de pétrole, t'as plus de livraison dans tes magasins. T'as plus de bouffe. Si t'as plus de pétrole, t'as plein de choses qui s'arrêtent, en fait.
Ouais.
T'as tout qui s'arrête, en fait, si t'as plus de pétrole. Et en gros, tu meurs. Et il y a l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, si tu n'as pas de voiture, tu meurs. Parce que tout est tellement éclaté et éloigné.
Ouais, ouais.
Si t'as plus de pétrole, tu meurs de faim. Enfin, tu meurs de faim. Parce que tu peux plus aller acheter de la nourriture. Tu vois?
Et toi, sachant ça, pourquoi t'as pas, je sais pas, une petite maison autosuffisante avec ton potager et tout? Enfin, tiens, on pourrait se poser la question.
Bah, mon frère a un terrain.
Ouais.
Mon frère a un terrain au Pays Basque. Et mon frère, il est carrément au courant de tout.
Ouais.
Mon frère s'est cultivé, mon grand frère s'est cultivé, donc il a des terres avec des arbres fruitiers, avec un étang et tout, parce que l'eau, c'est un problème. Mon père s'est cultivé aussi. Donc en fait, c'est si je me permets de rester à Paris, de me concentrer sur ce que je fais là, c'est parce que je sais que j'ai une solution de repli, tu vois.
Ah ouais, donc
et elle existe,
quoi.
Ah ouais. Ouais. Mais non, mais ça va tellement loin que on se dit que si à un moment il y a une rupture des réseaux téléphoniques ou quoi que ce soit, on sait où se retrouver avec ma famille.
Vous avez un point de repère.
On okay. Ouais, parce que enfin, si tout se casse la figure, si t'as plus d'énergie, t'as plus tout ça, enfin t'as plus de pétrole, tout ça, oublie tes GPS, ressort tes cartes routières déjà, sache où retrouver tes amis. Enfin juste, tu vois, je veux pas partir dans un truc apocalyptique. Il faut juste garder ça en tête. Et ça se trouve les gens qui écoutent se disent que je suis complètement tarée. Avant de penser ça, renseignez-vous un petit peu. Je suis quelqu'un de très sensé et c'est juste que je suis consciente de ce qui est en train de se passer. Et que je mets en place des plans d'action, voilà, pour au cas où. Et concernant l'eau, parce que je parlais de l'eau, je vous invite à regarder un reportage qui s'appelle Apocalypso, et donc O à la fin E-A-U, Apocalypso. Il se trouve sur YouTube, c'est Canal+, je crois. Et ils expliquent simplement la situation à Cape Town, en Afrique du Sud. Il n'y a plus d'eau, et cette ville, qui est une des plus grosses villes du monde, va être évacuée d'ici peu. Parce qu'il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques. Et ça, c'est un truc qui est en train d'arriver partout. Il y a plein de villes en stress hydrique dans le monde.
Mmh.
Et tu peux pas l'inventer, l'eau. Hein. Tu ne peux pas l'inventer. Donc voilà, regardez ce reportage, vous verrez, ça c'est un truc qui se passe en ce moment.
Et si on traite l'eau des océans et de la mer, on a quand même de quoi tenir un petit
peu
de temps.
Ok, mais il faut de l'énergie. Et quand à côté, on a peu d'énergie aussi, on fait comment?
Alors, c'est horrible ce que je veux dire, mais moi, je suis très problème-solution.
Mm.
Mais si le monde se réchauffe, a priori, il y a du soleil. Donc, l'énergie, elle peut venir de l'énergie solaire.
Ouais, d'accord. Mais en fait, les panneaux, ils sont construits à partir de terres rares. Ces terres, elles sont pas inépuisables, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Enfin, et puis même, pour extraire ces terres, il faut de l'énergie. Enfin, c'est compliqué, en fait. La solution, parce que tu voulais quand même des solutions, c'est la sobriété. La sobriété dans tout. La sobriété dans notre consommation... d'aliments, la sobriété dans notre consommation de biens, dans notre consommation d'énergie, la sobriété dans tout. Il faut qu'on arrive à essayer de vivre avec moins, mais mieux, tu vois. Moi, j'ai écrit une wishlist du futur, par exemple. Je me dis, qu'est-ce que ça pourrait être ma wishlist du futur? Bah, par exemple, une guitare. Parce que t'as pas besoin d'énergie, en fait, c'est un truc, tu vois, ça rassemble les gens, c'est hyper convivial, et t'as pas besoin d'énergie pour ça. Tu vois, c'est toutes ces petites choses, je me dis, je voudrais un vélo, un vélo de bonne qualité, parce qu'il va falloir qu'on se balade beaucoup en vélo, tu vois. Enfin, il faut juste essayer de se projeter dans un monde qui n'est pas le monde actuel, parce que ça va changer. Dans tous les cas, ça va changer.
En fait, moi, mon principal questionnement, c'est que je pense pas que ça peut changer partout. Et que en fait, notre société n'est pas la même que la société chinoise, qui n'est pas la même que la société indienne. Donc, je pense en effet que dans... Alors, j'aime pas ce terme, mais les pays développés, ça risque de changer, parce qu'on est, entre guillemets, enfin, on a eu un développement plus en avance que d'autres pays. Et je me dis que je pense que cette différence va se ressentir forcément, de toute façon, dans les années à venir, vu que bah, y a ce différentiel historique. Donc, même si nous, ça change... A priori, ça m'étonnerait que ça change, que ce monde-là puisse changer autant en Europe qu'aux States, qu'en Chine, qu'en Australie, que dans le sud de l'Amérique.
Ça dépend. Hein. Moi, je vois pas l'avenir. Je peux pas te dire.
C'est clair.
Mais le fait est que, au moins, juste le changement climatique, ça va avoir de l'impact.
Oui, c'est
partout.
Sûr. Et ça concerne
les tempêtes, les inondations, enfin le manque d'eau, les feux. Enfin ouais. Les feux.
Les
feux, c'est que le début. Hein. Moi, je suis sûre que la Californie va vivre des migrations dans les 5 prochaines années. Il y a des gens qui vont commencer à partir. Hein, parce qu'ils ont peur.
Ouais.
Enfin, l'Australie...
À juste titre.
Bah ouais, l'Australie, ça se trouve, dans 10-15 ans, ça sera inhabité, parce que ce sera invivable. Enfin, parce que les feux sont tellement énormes que même les grandes villes suffoquent, tu vois. Enfin, il y a des gens qui vont bouger. Et donc ça va avoir un impact sur le monde entier, sur la géopolitique, sur tout. Et puis ça se trouve, en fait, ça va faire qu'il y a un président qui va péter un câble, il va envoyer une bombe nucléaire, et on va tous crever comme ça, tu vois, je sais pas.
Déjà qu'avec Trump, on est pas très rassurés.
Ah ouais, voilà, tu vois, tu sais pas. Moi, l'effondrement, tu vois, la collapsologie, je prends en compte. Mais en fait, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, je sais juste. Les choses qu'on sait, c'est que le climat change et que ça va avoir des impacts. Et ça, on le remarque, tu vois. Il y a 5-10 ans, tu le disais, on te disait, ouais, non, vas-y. Alors là, maintenant, on le ressent. On le ressent tous.
Je pense que le Covid a vraiment tout changé, mine de rien.
Et le Covid aussi, le Covid a
le
montré...
Le Covid dure, non, c'est pas vrai, le monde change pas, tu vois.
Bah, le Covid a montré que le fait que... Enfin, la mondialisation était un problème.
Ouais.
Un virus qui apparaît là... Moi, je me rappelle, mon frère habite en Chine. Okay. Je me rappelle, le virus était en Chine, j'ai commencé à en parler un peu sur Instagram en janvier. On m'a dit, ouais, mais vas-y, Roxane, c'est quoi tes histoires, machin, tu dis
c'est
n'importe
en
quoi.
Chine.
Ah bah putain, regarde où on en est. Et surtout, ça s'est propagé extrêmement vite à cause de la mondialisation.
Ouais.
Enfin bref.
J'ai le seum parce que je vois le temps passer et que j'ai un call et qu'après j'ai cours. Oh, joie. Bon, du coup, on n'a pas pu énormément parler de la pilule qui était un des principaux sujets. Donc
mais
on
ouais.
Parler, mais c'est pas grave, on a fait une vidéo sur le sujet.
Ouais.
Donc je vous encourage à aller voir la vidéo. Est-ce que juste là, un peu, si tu peux brièvement parler de ce qui t'est arrivé et des conseils que tu aurais à partager aux personnes qui nous écoutent, parce que donc, alors ça tu l'as pas mentionné, mais Dear Lobbies a aussi commencé en étant un blog où tu partageais tes expériences en tant que consommatrice de pilules qu'on t'a gentiment prescrit à 14 ans.
Ouais, alors Dear Lobbies, c'est un média depuis un an et demi, mais il y a 5 ans et demi, effectivement, j'ai créé un groupe. En fait, j'avais un autre blog qui s'appelait Roxane Co. à l'époque où, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de pilules et que j'étais pas écoutée du tout par les médecins, j'ai commencé à écrire ce que je vivais. Et là, j'ai vu que de semaine en semaine, je commençais à être très très lue, jusqu'à être lue par plusieurs milliers de personnes toutes les semaines, alors que c'était un mini blog, c'était un petit truc. Et là, je me suis dit, oh, ok, je suis pas toute seule dans ce cas-là. Je vais créer un groupe sur Facebook qui va être un lieu d'échange, en fait, où on va pouvoir se parler. Et en fait, j'ai eu des centaines de femmes tout de suite qui ont débarqué sur le groupe. Et je me suis rendu compte que tous les symptômes que j'avais, que je présentais aux médecins, parce qu'au début, c'était des symptômes que je vivais sous pilule. Essoufflement, maux de tête, maux de ventre. Enfin, j'avais plein de problèmes sous pilule. Ces symptômes étaient totalement... comment dire, les médecins en fait ne voulaient pas les prendre en compte, ces symptômes. On me disait que c'était dans ma tête. J'en ai parlé sur le groupe et j'ai eu un soutien parce que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule, donc déjà ça m'a énervée. Et en plus de ça, les symptômes post-pilule, parce que j'avais essayé de l'arrêter 3 fois, pareil, les médecins voulaient pas les prendre en compte. Je me faisais des films, etc. Je me suis rendu compte que cela aussi était vécu par les autres femmes qui étaient sur ce groupe. Donc,
ouais. Moi, ce que j'ai trouvé dingue, juste, je le rebondis là-dessus, c'est que, en fait, quand t'arrêtes la pilule, et que t'arrêtes notamment la pilule Diane, et que tu perds tes cheveux, que t'as de l'acné, que t'as tout ça, Moi, ce qui vraiment m'énerve, parce que ça te fait te remettre en question, le corps médical va te dire mais en fait, la pilule, c'est pas ça qui te l'a déclenché. Ça, tu l'avais déjà en toi.
C'est ça, c'est horrible.
Et la pilule, en fait, c'est juste que tu l'as arrêtée, ben, ça a révélé. Et je suis là, les gars, genre, en fait, grâce à Dear Lobbies, notamment, grâce à ton groupe aussi, on s'est rendu compte que, enfin, c'est pas possible, une fois, je veux bien, que 5000 femmes arrêtent la pilule et toutes des crises après l'avoir arrêtée, c'est pas que toutes, en fait, elles étaient prédisposées à avoir de l'acné. Enfin, tu vois, toi, tu le disais, t'avais même pas d'acné
avant
de prendre la pilule, quoi. Tu l'as expliqué, ça, d'ailleurs? Pourquoi la crise est aussi violente quand on arrête Diane et pourquoi enfin...
Mais je pense qu'au-delà des hormones, ça te détruit le corps, la pilule. Tu vois, déjà, les hormones se stockent dans ton foie. Le foie, c'est quand même l'organe qui élimine les impuretés, etc. Mmh. Quand t'as pris la pilule, pour ma part, 14 ans, ton organisme, il est pourri. Donc, la peau, c'est un émonctoire. C'est un organe qui permet aux toxines de sortir. Donc, quand t'as plein d'acné, c'est que ton corps essaye de faire sortir des choses. Donc, au-delà des hormones, c'est que ton corps se purifie, entre guillemets. Mmh. Tu vois. Donc, moi, je sais pas encore l'expliquer. Mais je sais simplement que j'ai pris mes boutons et mon acné comme un voyant, tu vois. Je me disais que tant que j'en avais, mes problèmes internes n'étaient pas réglés. Mmh. Pour moi, c'est un symptôme. Mmh. L'acné, c'est un symptôme. Donc les cheveux, etc., oui, c'est... De toute façon, c'est certainement hormonal parce que tu te retrouves à...
Bah, c'est clair.
Ton corps, il est perdu, ouais, ouais. Forcément. Mais il y a plein de choses. Après, moi, je suis pas médecin, donc je peux pas me permettre de dire c'est ça ou ça. Tout ce que je peux me permettre de dire, c'est que mon expérience de la chose me fait dire que toutes les pilules sont dégueulasses, toutes, sans exception. Il y a peut-être des gens qui écoutent et qui se disent « Moi, je la tolère. » Déjà, le mot « tolérer », ça va pas. Le mot « tolérer », ça va pas. Autre chose, posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a un autre médicament qu'on prend alors qu'on n'est pas malade? Eh ben non. La pilule, c'est un médicament qu'on prend alors qu'on va bien. Pour 5 jours de fertilité par mois. Enfin, c'est quand même dingue. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller chez le médecin et qu'ils me disent « Est-ce que vous êtes sous traitement ?» Moi, je dis « Non ». Et après, il me dit, ah bah, vous prenez la pilule. Ah, bah oui, vous êtes sous traitement. Et je dis, ah putain, bah oui, c'est un traitement. Mmh. C'est un traitement alors que je vais bien. C'est quoi cette blague? Enfin bon. Pour moi, c'est mauvais pour tout le monde parce que il n'y a pas assez de recul. Et puis, ça déglingue le corps, en fait. Mmh. Ça déglingue le corps. Le système endocrinien est tellement bien fait. Pourquoi le dégommer à ce point-là? Donc, oui, ça a été la révolution sexuelle. Et encore, pour moi, c'est la révolution sexuelle des hommes.
Ouais, c'est clair.
Nous, ok, on n'a plus de libido, on a tous des effets secondaires. You! Bah oui, c'est sûr qu'on va pas faire d'enfant, on a même plus envie de faire l'amour. Non, mais c'est vrai, tu vois.
J'y fais fait.
Non, mais c'est vrai, enfin, combien de femmes ont des problèmes de libido sous pilule? Combien? Ouais, ouais. Mais beaucoup!
Mais bon, t'en es sortie.
J'en suis sortie.
Et donc, pour toi, aujourd'hui, là, t'es à l'équilibre? T'as trouvé vraiment un...
Ah ouais, mais ça a mis du temps. Alors, il y a plein de choses qui sont flagrantes. Donc déjà, les migraines, ça disparaît direct.
Okay.
Bah après, t'as la phase acné. J'ai mis 3 ans à me débarrasser de l'acné.
Ouais.
3 ans après la pilule, sachant que j'étais pas accompagnée à l'époque. Donc, pour toutes les personnes qui écoutent, soyez tranquilles. Il y a des solutions maintenant pour que ça se passe bien.
Moi, j'ai une question qui me taraude. Mais en plus, je sais que la réponse, c'est personnel et ce sera pas pareil d'une personne à l'autre. Mais est-ce que quand t'es accompagnée, avant même d'arrêter et que tu continues cet accompagnement, tu peux passer par une phase où tu ne revis pas est-ce que toi, t'as connu des filles dans le groupe qui ont été accompagnées, tu vois, dès leur sevrage, dès l'arrêt de la pilule et qui ne sont pas passées par ces périodes catastrophiques?
Ouais. Oui,
c'est
oui, oui.
Manière, tu vois.
Ouais, ça arrive. Évidemment que ça arrive.
Toi, tu penses que jamais t'avais été accompagnée dès le début par naturopathe, ostéopathe
Je pense que ça aurait été... Alors, j'étais accompagnée, mais on tâtonnait, tout le monde tâtonnait.
Ouais.
Ouais, je pense que tu peux t'en sortir sans ça, ouais.
Putain.
Sans avoir la crise, le rebond. Ouais, il y en a. Il y en a qui ont eu des arrêts catastrophiques et qui ensuite ont réarrêté. Et ça s'est bien passé. Donc, la preuve que...
Ouais.
Tu vois, même si ça t'est déjà arrivé une fois.
Ouais.
Non, mais ça peut très bien se passer. Mais pour reparler des effets, est-ce que je suis à l'équilibre? T'as plein d'effets que tu remarques de suite. Et t'as des choses vachement plus subtiles. Moi, il y a un truc qui m'est arrivé, genre, il y a un an. Donc, ça faisait 4 ans après la pilule. Je suis rentrée dans un métro. Mais c'était super bizarre. J'avais l'impression de découvrir la vie. Parce que j'ai commencé à être attirée par des parfums. Tu vois, j'avais l'impression d'être un petit animal, tu vois, genre une humaine, mais un petit animal qui est attiré par les parfums de certains hommes et tout. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Et j'ai regardé mon application pour savoir où j'en étais dans mon cycle. J'étais en ovulation. Et je me suis dit, putain, je suis en train de ressentir des trucs que j'aurais dû ressentir depuis l'adolescence, c'est l'attirance pour certaines personnes, tu vois. Et ça, j'ai vu un reportage sur Arte, je crois que c'est... Le titre, ça doit être l'amour... Enfin, c'est un reportage sur l'amour. Et dans ce reportage, il y a un moment où ils expliquent que la pilule annihile totalement ta reconnaissance de tes pères génétiques. Tu vois, là où génétiquement tu es attiré par certaines personnes, quand t'es sous pilule, ça c'est totalement... c'est à l'arrêt, c'est totalement supprimé. Moi je trouve ça super grave ça.
Ouais, c'est super grave.
Et ça on n'en parle pas, tu vois. On parle de plein de trucs concernant la pilule. Mais ça, et ça je l'ai ressenti. Je me suis dit putain, donc en fait j'ai retrouvé ma libido 4 ans après la pilule.
Ah ouais.
Donc ça allait beaucoup mieux après. Mais la libido, tu vois, t'as la libido qui est déclenchée parce que t'es avec quelqu'un, parce que voilà... Voilà, ça déclenche. Contexte. Voilà, il y a un contexte qui déclenche ta libido. Et la libido juste logique pendant ton ovulation, j'avais jamais ressenti ça. Tu vois, j'aurais une envie comme ça.
Ouais, naturel quoi. Naturel.
Et tu vois, c'était même pas une envie, tu vois. J'avais envie d'un des mecs, mais juste, je me ressentais attirée par certains. C'était bizarre, tu vois. Et j'étais effectivement en ovulation et j'en ai parlé sur le groupe et il y a plein de filles qui vivent ça. Et c'est quand t'en parles. Que tu te reconnais dans les témoignages, tu vois.
Ouais. Et d'où la force d'avoir un groupe où on peut parler sans filtre.
Évidemment.
Donc je mettrai aussi dans tous les cas le groupe dans les notes du podcast. Bon, bah du coup, on fera peut-être un deuxième épisode parce que franchement, c'est pas intéressant. Donc dites-nous si vous écoutez cet épisode, que vous voulez une suite. Dites-nous sur Instagram, on vous entendra et on fera ça. Je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ?
Prendre le pouvoir de sa vie, c'est clairement déjà faire connaissance, prendre le temps de faire connaissance avec soi-même, ce qui n'est jamais terminé, hein. On fait toujours connaissance petit à petit tout au long de la vie, mais au moins déjà avoir la base, se connaître, prendre le temps de se connaître, s'aligner avec ses valeurs, refuser tout ce qui ne nous convient pas, et ensuite s'aimer de manière inconditionnelle. Et moi j'ai mis 33 ans pour trouver ça, mais... Je m'aime, tu vois, je m'aime, vraiment. Je peux le dire. Avant, je t'aurais dit, je sais pas, j'ai pas confiance en moi. Je m'aime tellement. Je vais vous sortir la phrase d'une philosophe très connue, Samantha Jones, dans Sex and the City. C'est, elle dit à un moment à son mec, je t'aime, mais je m'aime plus. Et ça, c'est la base de la vie, en fait. Il faut toujours vous aimer, vous. Parce que de toute façon, vous êtes le centre de votre vie. Et en gros, si vous allez bien, tout autour ira bien. Voilà, c'était ça.
J'adore. Ah, mais c'est d'une grande philosophe, Roxane Nunc, du 21e siècle. Trop cool, Roxane. Bon, bah du coup, pour les personnes qui maintenant veulent en savoir plus sur toi, sur les fictions que t'écris, où est-ce qu'on les redirige ?
Sur le compte Instagram d'Irlobiz.
Super. Bon, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et je te dis à très vite.
À très vite, Louise.
J'espère que cette conversation avec Roxane a pu nourrir votre réflexion et pourra peut-être initier des changements positifs dans votre vie quotidienne. Quel que soit votre ressenti, et pour nourrir le débat, on serait ravis de l'entendre en post ou en story sur Instagram en nous taguant @dearlobbies et mybetterself pour qu'on puisse le voir. Vous pouvez aussi recommander cet épisode à deux amis autour de vous pour les informer ou leur inspirer une nouvelle réflexion. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.